Bonjour.
Je ne sais pas quel est votre critère. Donc je me lance ici sans savoir exactement. Je ne sais pas quelle est votre situation familiale. Je ne sais pas quelle est la situation dans votre assemblée. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans l'assemblée où vous êtes. Donc, ce que je dis, vous allez peut-être dire, ça ne me parle pas. C'est des généralités par moment. Et puis, quelquefois, les généralités redeviennent très critiques. Ou trop critiques. Surtout quand ça a tout au fait. Mais on va commencer par Patricia qui parle, mais la propre fois. On m'a pas posé ce passage. Au début, je me suis dit, mais je tiens le passage, je choisirai autre chose, c'est autrement. Et puis, non, je me suis dit, on va quand même lire les passages avec toi plutôt que de vous en parler comme ça. Est-ce que j'ai une volontaire pour lire 1 Corinthiens 14, versets 33 à 37? Il faut quelqu'un qui a une voix qui porte bien. Est-ce qu'on entend du profond? D'accord. Vas-y. 1 Corinthiens, pour ceux qui sont encore en train de faire, excuse-moi deux fois. 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 33 au verset 37. 33 à 37.
Car Dieu n'est pas un Dieu de
l'esprit du Christ. Deux l'esprit pour le
tribut. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, une femme qui fait de la parler, car elle n'aurait pas permis d'y parler. Mais qu'elle croit nous, comme le dit aussi la loi. Qu'elles veulent s'inscrire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car les mains à une femme de parler dans les jours. Est-ce de Jésus que la parole de Dieu est dans lui? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un soit un prophète spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai dit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, il ignore. Et donc, aspirez aux gens de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue.
Merci. Si quelqu'un croit parler pour Dieu, je vous écris un commandement du Seigneur. Si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est que Dieu ne le connaît pas. J'ai bien fait de choisir de lire les versets. C'est pas moi qui vous dis ce que je vais vous dire. C'est un ordre de Dieu. Alors, une volontaire pour lire 1 Timothée, chapitre 2, les versets 8 à 15. 1 Timothée, chapitre 2, 8 à 15. Et maintenant, tu vas pouvoir, toi, du coup, à ton tour. Chapitre 2, les versets 8 à 15. Et pendant qu'on est en train de chercher le verset avant que vous l'ayez trouvé, le titre dans ma traduction à moi, vous savez comment il y a des titres quelquefois par paragraphe, ça dit « Hommes et femmes dans l'assemblée culturelle ». On est en train de parler du dimanche matin. Hein? Vas-y. Ça commence avec «
je ». Je veux donc que les hommes prient à tout Dieu, en élevant les mains pures, sans colère ni contestation. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de presse d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes. Comme il convient à des femmes qui font profession de piété, comme la femme s'instruit en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a séduit. C'est la femme qui a séduit. C'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi. dans l'amour, dans la satisfaction, la satisfaction avec modestie.
Voilà, c'est les deux passages que j'ai choisis pour ce matin. Mais je vais vous surprendre. Nous sommes des êtres humains. Or, les êtres humains sont, j'ose pas dire doubles, parce qu'on n'est pas vraiment double, mais on est deux à la fois. D'abord, Dieu a fait les hommes et les femmes. Comme vous n'auriez pas remarqué, on est toutes pareilles aujourd'hui, de prophétie. Hein? On est donc avec un corps femelle. J'emploie exprès le mot femelle pour que vous compreniez ce que je veux dire. Parce que vous n'êtes pas que votre corps. Vous êtes aussi votre âme. Et on ne peut pas séparer les deux. Quand on sépare les deux, ce n'est plus un être humain, c'est un cadavre et un fantôme. C'est ce qui arrivera le jour de votre mort. L'âme se sépare du corps, le corps ne peut pas vivre quand l'âme s'en va. Donc votre corps, il est mâle ou femelle. Le vôtre vous dit qu'il est femelle. L'âme est soit masculine ou féminine. C'est là que je veux utiliser ce mot-là. Masculine ou féminine. Ce qui nous fait, nous, c'est notre âme. Et notre âme est féminine. Je le répète. Alors, vous vous dites que moi je croyais que dès qu'il n'y avait plus le corps, ben, le fantôme, c'est un peu affectueux. Peut-être qu'ils ont fait des classes d'enfants. Essayez de vous souvenir. Quand vous enseignez une classe d'enfants et que vous leur parlez pour la première fois de la résurrection, chambre. C'est vrai. Je vais revenir. Moi, là, comme ça. Oui. Pas comme ça. Oui, comme ça. Ça sera toi, mais ça sera pas toi. Pas clair. Ça sera toi. Je te reconnaîtrai, toi, Pierre, Paul, Janine, Alexandra. Je te reconnaîtrai, mais ça ne sera pas la viande que tu as là. Tu auras un corps qui pourra vivre dans le monde spirituel de Dieu. Tu ne comprends pas la moitié de ce que j'ai dit. C'est pas grave. Moi, vous m'avez plus ou moins compris. C'est que notre âme, elle reste nous. C'est-à-dire que, après ma mort, j'y crois. Et mes sœurs, je veux que vous croyez. Je vais revoir mon père et je saurai que c'est mon père. Son âme est une âme masculine. Mon âme est une âme féminine. Il sera toujours mon père. Il est mon frère, mais il sera mon père. Là, celle qui nage, c'est normal. Alors, je veux être moi dans l'éternité. Je veux que le jour de la résurrection, vous puissiez dire « Ah, Prisca est là aussi !» et que Prisca soit Prisca. Donc, mon âme est féminine. Si j'ai déjà ça en vous, vous comprendrez déjà beaucoup de choses. Mais, puisque nous sommes féminines ou masculines dans notre âme, pourquoi, mes sœurs, perdre son temps dans l'Église à lutter pour l'égalité, à lutter pour une similarité, une similitude dans l'Église, quand ce n'est pas une réalité spirituelle? Pourquoi vouloir nous forcer à nous couler dans un moule alors que ce n'est pas une réalité spirituelle? Pour celles d'entre vous qui prennent des notes, je l'ai déjà dit deux fois, vous pouvez copier. Je dis ça à mes élèves quand je veux qu'ils retiennent quelque chose. Vous pouvez copier. Pourquoi perdre son temps à lutter pour l'égalité dans l'Église quand ce n'est pas une réalité spirituelle? Je vous rassure tout de suite. Ça n'a rien à voir, rien à voir avec vos capacités, vos dons, votre connaissance, vos compétences, etc., etc., etc. Si on se met à comparer les sexes, comme dit mon mari,
Les hommes sont doués pour rugby, mais les femmes pour l'accouchement.
Et je vous jure que l'accouchement, c'est plus dur que le rugby. J'y suis passée deux fois. Donc je sais de quoi je parle.
Ça n'a rien à voir avec vos capacités. Au contraire, mettons les cartes sur la table. Mettons les choses à plat tout de suite. Vos dons, Dieu vous les a donnés. Et c'est pas pour vous qui vous les a donnés. C'est pour son église. Et c'est pour l'offrir à son église. Et quand vous les gardez pour vous, ou quand vous les donnez pour l'église en disant « Moi, 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 moi !» C'est pas ça. C'est pas la façon d'offrir vos dons à Dieu. Puisqu'on en est au moment des surprises, maintenant que je vous ai dit que votre âme à vous, elle est féminine. L'âme de votre mari, elle est masculine. Je vais renverser la vapeur et vous surprendre. Toutes les âmes humaines, quand on croit que c'est quelque chose de quoi, faut le faire, sont féminines par rapport à Dieu. Celles qui n'ont pas compris, c'est pas grave, je développe même. Ça, c'était le gros. Toutes les âmes humaines sont féminines par rapport à Dieu. Dieu est notre quoi ?
Père.
Vous avez déjà vu un papa accoucher, vous ? Non. Surprise numéro 2. Dans la Bible, quand on parle de naître de nouveau, la nouvelle naissance, naître d'en haut, etc., toutes les traductions que vous voudrez, Il paraît que ce verbe en grec se traduit de deux façons différentes selon le sujet. Si le sujet est masculin, un homme, il se traduit en français par engendrer.
Parce qu'un homme
engendre. Un homme n'accouche pas. Si le sujet est féminin, le verbe se traduit par donner naissance, accoucher. Faire naître. Parce que la femme tient en elle l'enfant et accouche de cet enfant. L'âme humaine est ensemencée par Dieu. Dieu est votre père. Dieu n'a pas accouché de vous. Dieu vous a engendré. Et il a planté cette semence qu'est la parole à travers son Saint-Esprit dans votre âme. Et c'est votre âme qui est féminine et qui fait naître cet être nouveau. Vous avez une âme féminine.
Ouais.
Et votre mari, votre père, votre frère, votre fils, a une âme féminine par rapport à Dieu. Ah, voilà qui change tout. Parce que les rapports vont être complètement différents. Revenons à Paul. Qu'est-ce qu'il disait au sujet de... Alors, je reprends le bon passage. C'est en... celui en Timothée. Celui en Timothée. Que la femme se tienne donc en silence. Verset 13. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier. Ève ensuite. Comme a dit mon mari, tu pourras toujours leur dire qu'on fait un produit avant de faire un chef-d'œuvre. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Alors, tout ça, c'est pour certaines des vieilles histoires, des jolis contes qu'on raconte aujourd'hui. Pour d'autres, c'est une histoire vraie, mais qui n'a plus rien à voir avec notre vie moderne, il ne faut pas rêver, on a évolué depuis. Hein. Pour d'autres, ça représente quelque chose parce que la structure de l'Église, c'est ça que Paul est en train de dire, la structure de l'Église doit refléter l'histoire du dessein de Dieu. Encore plus. La structure de l'Église doit refléter le dessein de Dieu. Alors, vous remarquez qu'il y a du rouge. Le rouge, les élèves savent tous, oulala, ça va être important, ça va tomber au contrôle. Le dessein de Dieu, il y en a plusieurs ici qui sont sémistes ou ont été sémistes, et vous voyez tout de suite de quoi je veux parler, pas vrai? Il y a un cours d'un trimestre sur le dessein de Dieu. Il y en a même ici qui sont en train de suivre le dessein de Dieu. Et ce dessein de Dieu, il commence avec la Genèse, il nous raconte des histoires, des histoires, des histoires. On arrive à Jésus, et on raconte ça à nos enfants dans les classes publiques et à la colonie. Et comme je leur dis à la colo, vous avez toutes les histoires, mais dans votre tête, c'est un fruit. Les histoires vont dans tous les sens. On ne sait pas si Joseph il est né avant David ou après. C'est pas grave, mais on sait que Joseph il lui est arrivé des trucs bien. David aussi. Oh, Daniel, il y a eu du bien. Je ne sais plus ce qui vient avant et ce qui vient après. Alors que le dessein de Dieu, c'est un plan. Et un plan, ça progresse. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un enchaînement de choses qui arrivent. Ça veut dire qu'il y a un progrès. On va quelque part et ça va culminer quelque part, ce dessein de Dieu. Dessin avec un E. Mon Dieu dessine très bien, mais je veux dire un plan, hein, on n'est pas en train de dessiner. Alors, ce plan de Dieu, c'était quoi? C'était tout préparé pour que quand Jésus vienne, le monde le reçoive. Un peu vite, dans le style où comment on l'a reçu nous, c'était, on lui a offert une croix, hein, comme cadeau. Mais bon, les théologiens, quand ils parlent du dessein de Dieu, parlent de la théologie du signe. Alors, un signe, c'est quoi? Là, c'est le moment où moi, je me tais et j'obtiens le silence de ma classe parce que plus personne ne veut parler. Un signe, c'est quoi? Une manifestation. Ah non, mais c'est pas un... Je comprends votre dico, signe, hein, il y en a plus.
Qui prévient, qui avertit.
Qui prévient, qui avertit. Une preuve. Alors, le mot signe nous a donné signaler. Le verbe signaler. Je suis allée chercher Lia et Marie à l'aéroport hier. Et puis, arrivé à la sortie d'autoroute, je me dis, je ne sais plus si c'est la deuxième à droite ou la première à droite. Bon, on s'embarque, et puis je m'inquiète parce que je ne reconnais plus depuis la route, il faisait nuit noire, donc je ne reconnaissais plus tellement. Et puis on avance jusqu'au deuxième rond-point, de moins en moins sûr, je crâne hein, devant elle, je dis, oh, retrouver, vous ne la faites pas. J'arrive au troisième rond-point, ah, miracle, un panneau. Qui dit la bombe? Je ne les ai pas perdus, on va dormir, on va manger ce soir. Cool. Si je m'étais arrêtée là et que je leur avais dit, prends la main, sortez les filles, ça dit la bombe, on y est. On aurait dormi dans le froid. On aurait dormi dans l'herbe, sur le bord de l'arbre. Le signe vous dit non pas où vous êtes, mais où vous allez. Le signe vous indique la bonne direction. Le signe vous prévient de quelque chose. Et vous êtes, mes soeurs, un signe de Dieu. Allez, mes soeurs. On ne se sent pas toujours des signes. Mais vous êtes un signe. Vous êtes là pour indiquer, pour refléter quelque chose aux hommes, aux êtres humains, qui entreront dans l'assemblée le dimanche matin et sans tout comprendre, comprendront quelque chose d'une structure.
Ils comprendront qu'il y a un ordre établi. Ils comprendront que les choses sont organisées pour amener quelque part. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus capable ou moins capable. Ça ne veut pas dire que vous avez moins de foi ou plus de foi. Ce n'est pas parce que vous êtes soumis que vous êtes moins intelligent ou avec moins de foi. Je le répète. Les seules personnes à aller au tombeau le dimanche matin, les seules personnes à être au pied de la croix à la dernière minute, c'était des femmes, pas des hommes. Ça ne veut pas dire que vous avez moins de foi. Ça veut dire que vous acceptez que Dieu vous utilise comme signe pour le monde. Ça n'a rien à voir. Vous voulez être dans le dessein de Dieu. Et Dieu dit, d'accord, je te mets dans mon dessein. J'accepte de te prendre. Est-ce que tu veux bien que je t'utilise? Oui, je t'aime. Je veux être utilisé. Est-ce que tu acceptes d'être un signe pour enseigner quelque chose aux autres? Il y a deux façons d'enseigner. Il y a la façon que je suis en train de faire là, ça s'appelle un cours magistral. Tous les étudiants vous diront, c'est rasoir. Généralement, on ne se souvient de rien d'un cours magistral, sauf les notes qu'on a prises et qu'on répète le soir parce que ça va sortir au contrôle le lendemain. Il y a une autre façon d'apprendre. C'est quoi la deuxième façon d'apprendre? L'interactivité et l'exemple. Ah! Ah! L'exemple. Est-ce que je peux aller plus loin que le signe? Est-ce que vous, mes soeurs, par votre soumission à l'homme, vous êtes capable, par votre exemple, de l'enseigner, lui, à se soumettre à Dieu? C'est à ça que Dieu vous a destiné. Il a dit, ça c'est pas moi, on n'a pas dit qu'on l'a. Il a dit, dans la tête, peut-être que si j'utilise les femmes pour leur montrer comment se soumettre, peut-être que ça leur rentrera dans le crâne. Et il vous demande de vous soumettre à votre mari, de vous soumettre dans l'assemblée aux hommes qui sont en train d'enseigner, pour que les hommes, en vous regardant, se disent, c'est ça que tu veux? La petite ampoule qui s'allume là, il vient de comprendre quelque chose. L'exemple enseignera toujours mieux que le grand cours magistral qui rentre par là et qui sort par là. Donc laissons le rôle, ça c'est pas gentil. Laissons le rôle du cours magistral le dimanche matin en 20 minutes à nos mains, aux hommes de l'Assemblée, et enseignons-leur par notre soumission dans l'Assemblée ce que Dieu veut que nous leur enseignions. Ça ne veut pas dire que si vous êtes doué pour enseigner oralement, vous ne devez pas le faire. Il y a plein d'autres, il y a trop d'autres possibilités. Mes soeurs, si vous avez le don, venez au secours. On a toutes besoin de quelqu'un qui se porte volontaire pour faire plein de choses. Et pour enseigner, il y a de la place. Croyez-moi. On vous parle du dimanche matin. C'est tout. L'Église est là pour montrer quelque chose aux frères et aux sœurs et au monde à l'extérieur qui en est en vie. Ça se passe dans l'ordre. Il y a de l'ordre. Il y a de l'organisation. Et peut-être que si l'homme se soumet à Dieu, on va obtenir une Église qui arrive à se soumettre à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a créé les sexes différents? Si vous y pensez bien, il a fait les amibes qui se reproduisent par division cellulaire. On aurait dit que ça se coupe en deux,
deux pouces, là, tout d'un coup. Il aurait pu nous faire comme les escargots hier. Hermaphrodites, qui sont mâles et femelles, ils rencontrent un autre escargot et... Ça, c'est quoi? Moi, je suis mâle. Ah ben, moi, je deviens femelle. Et puis, ils rencontrent l'escargot d'après. Ça, c'est quoi? Moi, je suis femelle. Ah ben, je redeviens mâle. C'est pas grave. C'est ça, un hermaphrodite. Il aurait pu faire moderne, copier-coller. Il a choisi de faire deux sexes, les hommes et les femmes. À votre avis, pourquoi? Parce que ça aussi, c'est un signe. C'est un signe. Alors, revenons sur le signe. Le signe par excellence, et puis je reviendrai ensuite au dessert, si vous inquiétez pas, on va continuer à parler de ça. Le signe par excellence dans l'Ancien Testament, c'est la pâte juive. Alors, la pâte juive, quelqu'un qui se souvient ce que c'est, la pâte juive, qu'est-ce que ça commémore, c'est arrivé quand la première fois, qu'est-ce que c'est?
La sortie d'Égypte.
Et pour sortir d'Égypte, les esclaves devaient faire quoi? Asperger le sang d'un agneau. Où? Sur
les montants et les linteaux.
Les montants et les linteaux de leur porte. Sur les montants et les linteaux de leur porte en bas. Moi, je suis désolée. Mais si j'avais été Dieu, j'avais une idée qui était meilleure. L'idée qui était meilleure, je vais vous dire tout de suite, c'était pour faire quoi ce sang? Ça protégeait quoi? De qui et quoi? L'ange des sauteurs qui devait détruire quoi? Les premiers-nés. Ah ben mon idée est meilleure, on mettait du sang sur la tête du premier-né. Et comme ça, l'ange hybride, celui-là, il fallait se protéger. Mon idée, elle est mieux. Mais Dieu a la théologie du signe. Et quand on commence à comprendre comment tout se répète, tout se signe. Souvenez-vous que dans la Bible, il nous est dit que les choses de ce monde sont faites pour que l'homme croit en Dieu, pour que l'homme voit Dieu dans sa création. Tout, c'est tout. Tout ce qu'il vient de dire. Et Dieu dit, vous allez mettre du sang sur du bois vertical et du bois horizontal. J'adore raconter cette histoire-là en classe. Parce que je vois les yeux des filles qui font signe compris. Où est-ce que vous avez du bois vertical et du bois horizontal avec du sang dessus? Jésus sur la croix. Signe compris. Quand on comprend le signe, eh ben on accepte de faire partie du signe. On accepte, on se dit, mais oui, c'est tellement génial. Pourquoi vouloir faire un malfaçon alors que l'idée qui est là est... J'ai plus qu'à te penser à ça. Heureusement que je ne suis pas Dieu. Je n'aurais jamais pensé. C'est génial. La théologie du signe. Alors, les deux sexes, ça leur dit. Les deux sexes, ça doit avoir une raison. Un signe. Qu'est-ce que c'est que ce signe? Pourquoi est-ce qu'on est homme et femme? Voilà. C'est que dans tout, je me mets un petit peu devant le tableau, donc vous allez avoir du mal, et puis après je me pousserai. Hein. C'est que dans toute relation, il y a deux axes. Il y en a un qui est l'axe de l'égalité. Nous ne sommes ni homme, ni femme, dit la Bible. Nous sommes à égalité, l'un avec l'autre. Il n'y a plus ni juste, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Mais dans toute relation, il y a également, excusez-moi, l'autorité. Et le
désobéissant. Et c'est la tension entre ces deux axes qui crée une dynamique. Si on n'a pas cette dynamique, on n'a plus vie, on n'a plus, c'est mort, ça ne bouge plus. Il nous faut cette tension continuelle qui fait évoluer la relation. On espère de plus en plus vers le centre, c'est ce qu'on espère. Au départ, ça va dans tous les sens, hein, notre relation. Mais petit à petit, on espère trouver un équilibre qui soit en même temps dynamique. Je suis en train de parler d'un équilibre. Je parle d'un équilibre dynamique, mais il faut cette tension pour continuer à vivre. Autorité, je vous préviens tout de suite, autorité ne signifie pas pouvoir et obéissance ne signifie pas infériorité. Mettez ça tout de suite sur votre feuille. Je répète pour ceux qui sont en train de noter. Autorité, ce n'est pas le pouvoir et obéissance, ce n'est pas l'infériorité. Car le fils est égal à Dieu. Le fils de Dieu, c'est soumis au Père pour lui obéir. Le fils n'est pas inférieur au Père. Le fils est obéissant au Père. À nouveau comme signe pour que son corps, l'Église, soit obéissant au Père. Et c'est par l'obéissance qu'il a appris, comme nous tous, par cette obéissance, qu'il a été glorifié. Dieu l'a vu capable de choses petites et de plus en plus grandes, jusqu'à lui donner la gloire suprême. On ne donne pas la gloire suprême à quelqu'un qui n'est pas capable du plus petit don. On le donne à quelqu'un qui a déjà tout donné. Seulement, il va falloir qu'on commence à donner. Vous êtes un signe pour le monde. Maintenant, si je suis un signe pour le monde, si j'accepte que Dieu m'utilise dans son destin, en soumission dans l'assemblée du dimanche matin, et que je dis à Dieu, je veux bien être un signe, d'accord, on est d'accord, j'ai bien compris ce que Christ a dit, je suis préféré, mais bon, j'ai compris, je veux bien être un signe, mais je veux être un signe comme moi. C'est crois-moi Dieu, c'est mieux. C'est beaucoup mieux dans ce sens-là que dans le sens que tu as prévu. C'est mieux comme ça. Le monde qui entre, les chrétiens qui entrent, vont partir dans la mauvaise direction. C'est la façon que vous vous soumettez aux hommes, qui enseignera aux hommes à se soumettre à Dieu, qui enseignera à l'Église à se soumettre à Dieu, et qui peut-être arrivera finalement à enseigner au monde entier à se soumettre à Dieu. On en est loin, mais et j'ai pas envie de le dire, une des raisons qu'on en est peut-être plus loin, c'est que trop souvent, on a voulu, je vous accuse de rien, je veux trop souvent être un signe pour Dieu. Mais je connais la direction de crois-moi, Dieu, je sais dans quel sens il faut faire. Et Dieu me dit, presque. On va essayer encore une fois, c'est dans ce sens-là que je voudrais. On arrive à la fin. Ce n'est pas de moi que je vais vous lire. C'est Marc qui l'a écrit. Mais je me suis dit, si on a ça en tête, peut-être qu'on peut vivre ça plus facilement aussi. Jésus était soumis, totalement soumis à son Père. En Jean 6, 38,
il est dit, je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est la réfutation définitive de la phallocratie sans nous faire tomber dans les sottises de l'unisexisme. Il révolutionne la soumission. Vous pouvez noter, Jésus révolutionne la soumission. Il nous montre que la soumission est une force et non une faiblesse, une marque de caractère et non un manque de caractère. Il se soumet à son père alors qu'il était absolument égal à son père, partageant pleinement avec lui la nature divine. Jésus-Christ nous montre éternellement ce que c'est vraiment la soumission. La soumission des fils au père, des femmes au mari et de l'Église à Dieu. Les mystiques nous disent souvent que spirituellement nous sommes tous féminins. Eh bien, c'est là un des secrets de notre foi. Puisque nous venons de lire au sujet de Jésus, laissez-moi vous lire, vous connaissez tous les passages, en Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 1 au verset... Quand j'aurai envie de m'arrêter. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, est-ce que c'est ce qu'il y a dans vos églises, mes frères ? Vaut mieux. Mais ça n'arrivera que comme ceci. Ayez, ah non, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est encore abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, homme ou femme, fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus Christ, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours été obéissants, soyez-le non seulement à ma présence, mais bien plus maintenant. Soyez obéissants à Dieu. Et comme nous le promet Carrefour, en agissant ensemble, on agit vraiment. À noter dans votre petit livret pour le groupe de discussion. Je vais relever la feuille pour que vous ayez les trois questions. Je vous les lis. J'ai le temps de vous les lire à toute allure pendant que vous copiez. Petit 1. Vous discuterez de quel aspect de la soumission du Christ qui est le plus choquant pour vous. Petit 2. Je vous demande d'imaginer un petit peu et de discuter de ce que ça ferait. Comment seraient nos écoles, nos assemblées, nos lieux de travail, nos gouvernements, nos familles. Un, si on était tous pareils, et deux, si nous étions comme le Christ. Et puis, troisièmement, quelle est la différence entre égalité et interchangeabilité? Interchangeabilité, ça veut dire je remplace un homme par une femme. Non, on n'est pas pareil, ça on en a parlé. Et puis, quatrième question qui n'est pas notée au tableau. C'est maintenant l'heure des travaux pratiques. Vous allez, pendant l'heure de discussion, avoir une feuille où vous allez écrire un petit mot à un dirigeant de l'Assemblée, à votre mari, à votre père, à un homme, pour le remercier. C'est dur pour un homme de diriger quand ça refuse. Vous, les mamans, vous savez comment faire diriger des enfants quand ça refuse. Un petit merci. Vous choisissez l'homme que vous voulez et vous lui écrivez un remerciement pour son travail dans l'église, ça serait mieux, mais ça peut être son travail dans votre vie aussi. Hein. Un tout petit mot, vous allez voir comme vous allégez leur charge. Ça fait du bien de s'entendre dire qu'on fait le boulot pas trop mal. Alors, quatrième question, qui n'est pas là, un petit mot gentil. Et au pire, vous lui dites, j'aime bien quand tu souris, quand tu fais ton sermon à la fin, là, c'est, ça encourage ton sourire. Enfin bon, vous trouvez quelque chose de gentil à lui, hein, et vous viendrez toutes prendre une feuille. Elles sont là.